Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, c'est à plus de 1000 km au sud de la Méditerranée, dans le désert algérien, que se trouve la région de la Saoura, d'où viennent les musiciennes du groupe Lema. Cet ensemble, créé par la chanteuse algérienne Souad Asla, que l'on écoute en ce moment, se veut le gardien d'une tradition séculaire, jusque dans son style vestimentaire. Lema sera à l'Institut du Monde Arabe à Paris, demain dimanche, et Souad Asla avec nous dans un instant. Les étudiants qatariens indésirables à la Sorbonne à Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, appliquent à la lettre l'embargo décidé par le Conseil de coopération du Golfe contre le Qatar. Résultat, c'est la Sorbonne Paris qui accueille les étudiants du Qatar en lieu et place de sa petite sœur émirienne. Reportage de Sami Bourhelifa. À retrouver sur notre site internet www.rfi.fr, la revue de presse croisée Israël et Monde Arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Boutchanti au Caire. Bonjour Souad Asla.
Bonjour Éric Bataillon.
Chanteuse, musicienne, meneuse de troupe, vous vous produisez demain dimanche à l'Institut du Monde Arabe à Paris avec votre groupe, Lema. Alors Lema, on peut le traduire par quoi? Par réunion, c'est retrouvailles.
Retrouvailles, l'union, la réunion, oui, c'est retrouvailles.
Alors avec vous, il y a essentiellement des femmes. C'est un groupe de femmes.
C'est un groupe.
Pourquoi?
100% féminin. Parce que les femmes, elles ont pas mal de choses à dire musicalement, surtout dans ma région. Et surtout parce que les femmes de cette région, elles n'ont pas eu la chance, comme les hommes, de montrer leur art au grand jour, c'est-à-dire de monter sur scène. Elles pratiquent la musique depuis très très longtemps, mais dans l'intimité. C'est pour ça que je voulais leur rendre hommage.
Alors, vous parlez de ces femmes de cette région, de quelle région parlons-nous?
Alors, je parle de la région du sud algérien, c'est la région du désert algérien. C'est une ville qui s'appelle Béchar, c'est le sud-ouest algérien.
Ce qu'on appelait autrefois
Colomb-Béchar
lors de la colonisation française. Oui. Donc Béchar, ville d'une trentaine de mille habitants à peu près,
un peu plus maintenant.
Et donc ce sont des femmes qui sont urbaines dans cette ville ou plutôt issues de la campagne environnante?
Alors il y en a qui sont urbaines, qui sont issues de Bécharville, et puis il y en a qui sont issues des villages à côté comme Tarit, Kenadza.
C'est un groupe qui est transgénérationnel. Ça veut dire qu'en fait, vous faites appel à des femmes de tous âges, c'est cela?
Tout à fait. C'est un groupe intergénérationnel. La doyenne, elle a 78 ans et la plus jeune, elle a 20 ans. Et c'est par ce groupe que la transmission est assurée. La doyenne nous apprend les chansons. Les deux petites jeunes qui sont dans le groupe, elles apprennent énormément. Et c'est un très, très bon moyen pour assurer la relève et la transmission.
On vous a entendu pendant le générique de l'émission sur votre album solo, Jawel, mais quel type de musique proposez-vous avec Lema?
Dans l'album qui est sorti chez Bouddha Music, j'ai proposé dans cet album plusieurs disciplines musicales propres à cette région. Alors il y a le ferda, qui est une musique très douce, qui se pratique avec les claps. Il y a le gnawa, qui est la musique des diwan, c'est pour moi la musique d'Afrique noire. Il y a zefani, il y a vraiment plusieurs disciplines. Je voulais représenter les musiques, les riches musiques de cette région et j'ai pas pu tout mettre.
Musique berbère, musique touareg, il y a un choix musical dans cette région qui est tout à fait étonnant.
Énorme. C'est un carrefour très très riche musicalement. Béchar, il y a beaucoup de passages et la musique fait partie de notre vie au fait.
Il n'y a pas d'homme dans cette composition sur scène. Pourquoi? C'est un choix quand même dans cette région où la présence masculine est très forte.
Oui,
pourquoi avoir fait ce choix?
J'ai fait ce choix parce que j'ai vu que les femmes, malgré qu'il y a beaucoup de musiciennes dans cette région, mais elles ne se représentent pas sur scène, elles ne montent pas sur scène. C'est pour ça que j'ai voulu donner la parole aux femmes. Et puis ces chants, ils sont chantés par les femmes. Et je voulais donner la place aux femmes.
Alors, des chants, mais aussi de la musique. Elle joue, et puis elle joue des instruments.
Oui, c'est surtout
ce qui, normalement, est réservé aux hommes.
Oui, tout à fait. C'est des très, très bonnes rythmiciennes, vraiment. très bonne rythmicienne, elles connaissent énormément de rythmes. Et puis il y a l'instrument fétiche dans ce groupe qui est le gombri, qui est un instrument des Gnawa, de la confrérie Gnawa, qui est réservé aux hommes, qui est joué par la diva Asna Al-Besharia. Et puis il y a la guitare aussi électrique qui est jouée aussi par Asna.
Parce que c'est un groupe de musique traditionnelle, mais pas du tout de musique archaïque. C'est très contemporain, au contraire, la façon dont vous jouez sur scène.
Tout à fait, c'est assez contemporain parce que c'est vrai qu'on c'est du traditionnel, c'est du patrimoine, mais en même temps, on est en 2019, enfin, nous sur scène...
C'est une musique vivante. Quoi,
c'est une musique très très vivante, oui.
Alors vous, Souad Asla, vous êtes né donc à Béchar, vous aussi, dans ce sud algérien. Comme ces femmes, vous partagez l'amour d'une musique mosaïque, donc avec toutes ces influences dont on a parlé, Bédouine, Touareg, etc. Et venue aussi d'Afrique noire. Mais vous, ce qui est intéressant, c'est votre parcours personnel qui commence, me semble-t-il, en 1999, lorsque vous rencontrez Asna, la roqueuse du désert. Racontez-nous ça.
Le parcours a commencé à cette année. Enfin, il a commencé avant par le théâtre, parce que moi, le chant, c'était vraiment, je chantais sous ma douche, quoi. Je me voyais pas chanter, je faisais beaucoup de théâtre, je voulais être comédienne. Et puis, il y a eu cette belle rencontre de Asna que je connaissais depuis l'enfance, qui est venue à Paris et je suis allée la voir. Je suis allée la voir parce que mon pays me manquait. Je suis allée voir Béchar au Cabaret Sauvage. Et après, Asna a décidé de rester en France pour faire sa carrière et elle venait beaucoup chez moi, on buvait le thé, on s'ennuyait toutes les deux, on était seules et puis on chantait les après-midi. Et c'est là où elle m'a demandé de l'accompagner comme choriste. Au début, j'ai refusé parce que je me suis dit, j'ai pas ma place. Et après, quand j'ai accepté, pourquoi deux, trois concerts, au bout du troisième concert, j'ai vu que c'était très, très noble ce qu'on faisait, qu'on était les gardiennes de ce patrimoine. J'ai pris conscience. À partir de là, je me suis mise à fond dans le chant, dans le rythme. J'ai pris des cours de guitare, de chant et l'aventure a commencé. J'ai laissé malheureusement la comédie et puis j'ai suivi la musique.
Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce répertoire musical particulier et ces femmes de l'EMA, vous qui avez plutôt un parcours différent, vous avez une licence de biochimie.
Oui.
Alors, comment passe-t-on de la biochimie à cette chimie particulière sur scène?
C'est un peu la même chose, la biochimie, la musique, la cuisine, c'est les préparations. C'est l'exil un peu qui m'a poussé à ça. Je me suis rendu compte que ce patrimoine musical qui m'aide à vivre ici à l'étranger, en fait, loin de ma famille. C'est quand j'ai un coup de blues, je mets ces chansons et ça va. Je suis à Béchar. Quand j'ai réalisé qu'il était en train de disparaître, que les femmes mouraient et elles emportaient avec elles ce riche patrimoine, là, il y a eu comme une sonnette d'alarme et je me suis dit, ma musique est en danger, il faudrait que je fasse quelque chose. C'était un peu égoïste parce que c'est pour moi aussi. Je veux garder ces morceaux, ça me rend heureuse. Et puis après, je les trouve tellement beaux que je veux les faire écouter au monde entier.
Mais pourquoi justement conserver ces musiques traditionnelles qui se meurent? Est-ce que c'est indispensable pour la bonne santé intellectuelle des individus?
Tout à fait.
Ceux qui vivent sur place, mais aussi les autres qui écoutent.
C'est très très indispensable de conserver. C'est notre identité. Et c'est là d'où on vient. Et quand on sait d'où on vient, on sait toujours où on va. Si on perd ça, c'est déjà... Vous savez, avec la guerre, l'Algérie, avec tout ce qui se passe, on est en manque d'identité. Et puis, tout ce qui nous rattache, c'est la culture. Tout ce qui nous rattache à ses racines, c'est la culture. Et puis, si on perd ces morceaux, c'est presque... Si c'est des morceaux qui vont mourir, pour moi, c'est dangereux.
Mais est-ce qu'il faut aussi les partager? Est-ce que c'est important aussi de les partager avec les autres?
Tout à fait. C'est un patrimoine immatériel qu'il faudrait partager aux Algériens et puis au monde entier, parce que c'est des chants qui font du bien à l'âme. C'est de la musique qui fait du bien. Et puis surtout en ce moment avec les guerres et tout ça, un peu de musique, un peu de paix, pour montrer que malgré qu'on chante différemment, on n'a pas la même langue, mais quand je fais des concerts, il y a des Allemands, des Français qui viennent me voir après en me disant « ça, on n'a pas compris ce que vous disiez, mais ça nous a vraiment fait du bien ce qu'on a entendu ». Et je trouve que c'est très très important maintenant, la culture, on n'a que ça comme arme. On n'a pas des Kalachnikov, on n'a que la musique et notre sourire.
Justement, est-ce que ça permet de combattre toutes les injustices? Est-ce que ça permet de combattre aussi tout cet intégrisme, absolument?
Énormément, surtout ce groupe-là. Parce que ce groupe, il est, comme je vous disais, il est intergénérationnel. Vous voyez une femme de 78 ans avec un foulard brillant, maquillée, avec des bijoux et fière d'être musulmane et fière d'être là. La place de la femme, elle doit être comme ça. La femme doit être belle, on ne doit pas cacher la femme. Et je prends ce groupe, pourquoi je l'ai monté? Pour montrer ça, pour montrer que les femmes dans le Sud, elles sont vivantes. Malgré le foulard, c'est pas un signe de soumission ou un signe d'intégrisme, c'est nos coutumes. Mais quand vous voyez ces femmes de différents âges, c'est pas, elles ont pas toutes 20 ans, elles sont pas toutes fraîches, c'est ça qui est extraordinaire. Elles sont toutes différentes, c'est des femmes normales. Et quand vous les voyez se libérer sur scène, elles sont, je les trouve magnifiques. Et c'est ce message de paix. Et ce message pour dire que, voilà, il n'y a pas que l'intégrisme dans l'islam. Il y a des femmes musulmanes pratiquantes qui montent sur scène et qui s'éclatent. Et c'est ça la vie.
Et ces femmes, elles continuent à vivre à Béchar et dans la région de Béchar?
Oui, elles continuent à vivre à Béchar. Au début, j'ai eu beaucoup de mal pour les convaincre. Il fallait convaincre d'abord les maris, les frères et la gente masculine.
Ça a été dur.
Ça a été très très dur. Je me porte garante de 12 femmes. S'il se passe le moindre truc, je sais que ça va se retourner. J'espère que ça ira cette tournée. Mais oui. Puis elles se sont rendues compte de la valeur et de la richesse de ce qu'elle avait entre les mains, les rythmes, tous ces chants. Maintenant, elles sont fières, elles sont dignes. Et elles ont une très bonne place à Béchar. Maintenant, tous les gens de Béchar écoutent le disque, nous félicitent et je suis très très contente. Alors qu'on était vraiment, il y a quelques années, j'étais vraiment loin de ça. Moi, pour chanter en Algérie, j'étais obligée de me cacher parce que ma famille refusait de me voir sur scène.
Et vous avez des candidates pour entrer dans les mains? C'est facile pour vous aujourd'hui? Maintenant que la machine a démarré, si je puis dire.
Au départ, c'était très, très dur. Quand j'allais voir les femmes, on allait faire la musique, il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait que des vieilles. Maintenant, quand ils ont vu que ce groupe voyage partout dans le monde et que ça a bien pris, je reçois énormément d'appels de petites jeunes qui veulent apprendre la musique. Et j'ai un rêve, j'aimerais bien monter une école à Béchar, une école pour les filles, pour apprendre le goumbri et le chant. C'est un autre challenge. J'espère que j'aurai la force de porter tous ces rêves.
Merci Swad Asla.
Merci à vous Eric.
Chanteuse et musicienne, on pourra vous entendre donc demain dimanche à partir de 17h30 si on est à Paris,
oui,
à l'Institut du Monde Arabe avec votre troupe Lema. On pourra également, si l'on est à Lyon la semaine prochaine, le samedi, vous entendre à l'Opéra. Voilà. Et puis fin août également, vous avez un rendez-vous du 28 au 31 au festival Les Traversées Tatiou, c'est sur une île, l'île de Tatiou, située sur la commune de Saint-Vaast-la-Hougue.
Il paraît que c'est magnifique.
C'est en Normandie et c'est dans le département de la Manche.
Super. Je tenais à vous dire que j'aime beaucoup cette radio, je l'écoute énormément et j'embrasse tous les auditeurs de RFI, que ce soit les auditeurs en France ou en Afrique, et je leur souhaite énormément de bonheur et beaucoup de paix.
Merci.
Merci à vous Eric.
Le Qatar est sous embargo depuis 2 ans. Le 5 juin 2017, les voisins de ce petit émirat du Golfe mettaient en place un blocus. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte, dans une moindre mesure, rompaient ainsi leurs relations diplomatiques avec Doha. Ils accusaient le Qatar de soutenir certains groupes terroristes et lui reprochaient sa « connivence » entre guillemets avec l'Iran, le grand ennemi régional. Mais au-delà des rapports officiels entre ces pays du Golfe, une rupture a affecté directement leur population qui entretiennent des liens notamment familiaux, parfois très étroit. Bonjour Sami Boukhalifa.
Bonjour Eric Bataillon.
Sami, vous nous racontez justement aujourd'hui l'histoire de cette rupture telle qu'elle a été vécue par une jeune Qatarienne scolarisée à la Sorbonne Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Elle est devenue indésirable du jour au lendemain et a été transférée sans qu'on ne lui demande son avis à la Sorbonne, ici à Paris, où vous l'avez rencontrée à la sortie des cours.
Elle s'appelle Jawaher Almir, elle est passionnée par la langue française depuis des années, et ça tombe bien, alors qu'elle vit à Doha, à 1 heure de vol de chez elle, une université francophone lui ouvre grand ses portes. La jeune étudiante s'inscrit alors pour une double licence en sociologie et en philosophie à la Sorbonne Abu Dhabi. Cette nouvelle expérience aux Émirats se déroule dans les meilleures conditions. Jawaher termine sa première année et rentre chez elle au Qatar, mais le 5 juin 2017, tout bascule, un embargo est mis en place. Elle n'a plus le droit de revenir à Abu Dhabi pour poursuivre son cursus. C'est le désarroi total.
J'ai un appartement à Abu Dhabi. J'ai mes études là-bas. J'étais perdue. Je ne comprends pas, toujours. Je ne comprends pas pourquoi elles ont fait ça. Elles ont dit dans les télés, dans les journaux, que le problème c'est politique, c'est avec le gouvernement.
Dans les faits, le problème n'est pas que politique. Les monarchies du Golfe lancent un ultimatum. Les citoyens du Qatar établis aux Émirats, en Arabie Saoudite, à Bahreïn, sont priés de rentrer chez eux dans les plus brefs délais. Les lignes aériennes et maritimes avec le Qatar sont interrompues.
Oui, Jawaher doit alors gérer son déménagement à distance. Si elle souhaite récupérer ses affaires, rester dans son appartement à Abu Dhabi, cela lui coûte une fortune, sans compter ses frais de scolarité et son loyer, payé 1 an à l'avance. Elle estime avoir perdu 200 000 euros dans cette histoire. Et le pire, c'est qu'elle ignore si elle est admise ou non en 2e année, car la Sorbonne Abu Dhabi ne répond plus. Malgré les appels répétés, les nombreux mails envoyés, c'est le silence radio à l'Université française des Émirats qui semble plus que jamais embarrassé. Et puis, finalement, après plusieurs mois, l'administration daigne enfin lui répondre et lui annonce qu'elle va suivre désormais ses cours à 5000 km de chez elle, à Paris.
Non, ils ne m'expliquent pas la raison et ils ont dit, voilà, le 2e étape, c'est ça, un papier de transfert. J'ai les emails, j'ai tout.
Et pour Jawaher, c'est la douche froide. Les conditions d'études à l'université Paris-Sorbonne n'ont rien à voir avec la Sorbonne Abu Dhabi.
J'ai quitté Abu Dhabi avec un cours privé, maximum 4 ou 5 dans chaque cours, avec des aides grammaire, des aides de tout. Mais ici, je commence à début avec les Français. Donc, mon moyen était en chute à cause de ça.
Mais malgré cette situation, Sami, la jeune étudiante qatarienne affirme ne pas en vouloir à la Sorbonne Abu Dhabi.
Oui, pour elle, l'université française est victime au même titre qu'elle et ses compatriotes expulsés. Ce sont les Émirats Arabes Unis qui prennent les étudiants en otage. Une telle situation, rappelle Jawaher, c'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale lorsque les États-Unis ont chassé les étudiants japonais. En France, des universitaires se sont mobilisés pour protester contre la décision d'Abu Dhabi, mais il n'y a eu aucune réaction officielle des autorités françaises. Contacté, le doyen de Paris-Sorbonne reconnaît néanmoins que son université aurait dû davantage accompagner Jawaher Almir lors de son transfert. Et cette année, la jeune femme sera la première qatarienne à décrocher une licence à Paris-Sorbonne.
Les déboires des étudiants qatariens à la Sorbonne Abu Dhabi. C'était votre reportage, Sami Boukhalifa. Merci.
Merci à vous.
Nous allons maintenant au Caire rejoindre Alexandre Boutchanti. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et à Jérusalem où nous attend Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour.
Avec vous, nous lisons la presse de la semaine. Alexandre, à la une de la presse arabe et soudanaise, la dégradation de la situation au Soudan.
Oui, et comme titre, par exemple, d'Al-Quds al-Arabi, les Janjaouides fêtent la fin du Ramadan dans le sang, en faisant référence à la tuerie qui a découlé de la dispersion du sit-in de Khartoum par les forces de soutien rapide, qui sont principalement composées de Janjaouides, qui sont ces guerriers qui se sont livrés à de nombreux massacres dans le Darfour. les journaux soudanais favorables à la junte indiquent qu'une enquête a été ouverte et met en garde les médias qui répandraient de fausses informations. Mise en garde aussi de la police à ceux qui essaient de tirer parti de la situation. Mais pour la presse proche de l'opposition civile, pas question de reculer face à un conseil militaire isolé intérieurement et internationalement après la suspension du Soudan par l'Union africaine. D'autres journaux sont favorables à la reprise rapide d'un dialogue afin de prévenir un effondrement du Soudan et sa précipitation dans une guerre civile.
Religion et politique, Michel Paul, pour vos journaux, ce sera le principal enjeu des nouvelles élections israéliennes.
On attend le Messie, fait remarquer un éditorialiste du quotidien Mariv, un Messie qui viendra sous forme d'élection, ajoute-t-il, et d'ici là, les politiciens œuvrent pour eux-mêmes. L'événement politique de la semaine, tous les commentateurs s'accordent à le dire, a été une petite phrase d'un député de l'Union de la droite qui briguait le portefeuille de la justice. Bezalel Smotrich a proposé l'application du droit hébreu, la halakha, comme au temps du roi David. Réponse cinglante du Premier ministre Netanyahou, Israël ne deviendra pas une théocratie. Et pour prouver ses intentions, il nomme comme garde des Sceaux un député du Likoud, ouvertement homosexuel, dont le premier acte a été de se rendre à la Gay Pride de Jérusalem, où, soit dit en passant, il s'est fait passablement huer. Mais Eric, la presse le souligne, ce sera le thème de la campagne électorale et l'enjeu de la consultation du 17 septembre, le statu quo religieux. À retenir encore dans les journaux cet appel du quotidien Haaretz à l'union de la gauche et aussi cette question que l'on retrouve sous plusieurs formes dans la presse de ce long week-end en Israël. Pourquoi le parti d'opposition bleu-blanc se réfugie-t-il dans un mutisme étonnant?
Et un sujet qui ne manque pas de sel, Michel, l'association Hamburger et Colonie de Peuplement.
McDonald's, la chaîne de fast-food, n'a aucun restaurant dans les colonies de peuplement et cela entraîne la colère de la droite nationaliste en Israël, qui propose notamment de ne pas permettre à McDo d'ouvrir une succursale à l'aéroport international Ben-Gurion. Pas de Big Mac dans les implantations, souligne Haaretz dans un article signé Gideon Levy. Officiellement, la raison est simple, McDonald's Israël n'a pas la concession pour la Cisjordanie. Et boum, fait remarquer le journal, la ligne verte devient une véritable ligne rouge. Haaretz rappelle le récent combat pour les mêmes motifs avec Airbnb, qui refusait de publier des locations dans les colonies de peuplement et propose aux colons de manger des hamburgers en Israël ou alors d'ouvrir leur propre chaîne, McDavid.
Alexandre, les divergences dans le monde arabo-musulman au sujet du premier jour de la fête du Fitr suscitent de nombreux commentaires dans la presse.
Oui, l'Arabie Saoudite et de nombreux pays ont décidé que la fête commençait le mardi, tandis que l'Égypte et d'autres pays ont décrété que le début de la fête était mercredi. Résultat, une confusion parmi des centaines de millions de musulmans. Pire, au Yémen, cela a entraîné des accrochages armés entre les rebelles houthis et la majorité sunnite. La fin du Ramadan est déterminée par la vue du nouveau croissant de lune conformément à la tradition. Or, pour diverses raisons météorologiques, nuages par exemple, ou techniques, le croissant de lune est visible pour une période trop courte, on peut le voir ou ne pas le voir. Depuis plus d'un demi-siècle, le courant progressiste demande que le début des mois lunaires soit fixé par calcul astronomique et non plus par la vue directe. Une hérésie pour les conservateurs qui restent majoritaires dans le monde arabo-musulman.
Plusieurs journaux commentent également, Alexandre, la décision marocaine d'interdire un festival de danse du ventre organisé à Marrakech par une Israélienne.
Oui, sous le nom très affriolant de délice méditerranéen, la danseuse israélienne Simona Guzman avait organisé le festival du 3 au 10 juin dans un grand hôtel de Marrakech. Un festival qui a provoqué l'ire des conservateurs qui estimaient qu'il portait atteinte à l'image du Maroc et des anti-israéliens qui s'élevaient contre cette nouvelle forme de normalisation avec l'entité sioniste. 70 danseuses et danseurs devaient participer à ce festival qui avait déjà eu lieu à Marrakech en 2011.
Michel, il est aussi question dans vos journaux d'un singe qui ne connaît pas de frontières.
Cela se passe à la frontière israélo-libanaise. Branle-bas de combat, une guenon de type vervet s'est enfuie d'une ferme libanaise dirigée par une nonne française aux idées œcuméniques. Le primate a facilement franchi la frontière et a erré pendant 5 jours côté israélien, à la grande joie des reporters habitués à couvrir des événements plus belliqueux. Finalement, c'est la directrice d'un zoo qui a réussi à amadouer la guenon. Une affaire de femme, a-t-elle précisé. Tichetouche, c'est le nom de l'animal, a été remis au casque bleu de l'ONU pour son rapatriement. Un commentateur qualifie l'affaire de véritable acte de paix.
Et votre image cette semaine, Michel ?
C'est la photo de Nechama Rivlin, la femme du président israélien Ruby Rivlin, qui n'a pas survécu à une greffe de poumon. Très aimée par le public en Israël, notamment pour sa modestie, elle a fait la une des quotidiens. La presse indique notamment que le président turc Erdogan et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont tous deux envoyé des messages de condoléances.
Merci Michel, merci Alexandre et merci à Mathias Golshani pour la réalisation de ce nouveau numéro de Dorian Hebdo que vous pouvez podcaster sur notre appli Pure Radio. Demain, nous suivrons les tribulations d'un flic kurde communiste à Raqqa en juin 2013, à un moment où la ville était encore très diverse politiquement, mais où l'État islamique entamait sa mainmise. Un roman policier passionnant et plein de rebondissements. À demain donc, tout de suite, le journal.